L'Alberta a permis aux employeurs de rappeler des travailleurs essentiels même s'ils sont atteints de la COVID-19. Jason Kenney a également dit qu'il n'avait pas l'intention d'implanter une taxe visant les personnes non vaccinées comme au Québec. Alors pour nous parler de ces dernières nouvelles dans le milieu de la santé, eh bien le docteur Quentin Durand-Moreau est avec nous. Bonjour monsieur Durand-Moreau.
Bonjour.
Ma première question est, que pensez-vous de la décision du gouvernement provincial d'autoriser les employeurs à rappeler des employés au travail malgré le fait d'avoir testé positif à la COVID-19?
Bien, je pense que là, c'est une décision qui ne repose pas uniquement sur des considérations médicales. On est dans un contexte avec une vague qui nous submerge et où la question de du maintien des services se pose. Donc là, il y a un équilibre à trouver par le pouvoir politique entre le maintien des services et la protection par rapport à la COVID-19. Donc, ce n'est pas idéal. En tout cas, moi, de mon point de vue purement médical, je ne suis pas ravi à l'idée que des gens positifs pourraient se retrouver au travail au lieu d'être à l'isolement. Maintenant, on peut le comprendre. Tout serait idéalement dans la mesure et dans le choix des secteurs d'activité qui seraient concernés. Je pense que ce n'est pas la même chose d'appliquer ce genre de mesures-là aux secteurs prioritaires tels la santé, la sécurité, l'agroalimentaire par exemple, et puis des secteurs plutôt de l'économie tertiaire où on pourrait envisager qu'il puisse y avoir un petit peu plus de choses qui se passent à distance par exemple.
Et vous avez parlé d'équilibre à trouver. Est-ce que vous pensez que des groupes syndicaux, d'autres groupes, là, pourraient venir à la défense des travailleurs à ce sujet, puis renverser cette décision-là?
Ah ben alors là, c'est plutôt une question de connaissance juridique, de savoir comment ce genre de décision gouvernementale pourrait être renversée. Mmh. Évidemment que les syndicats qui ont pour mandat de défendre les intérêts des travailleurs sont parfaitement dans leur rôle de faire valoir leur point de vue par rapport à cette question-là. Mais après, quant à vous dire l'issue que ce genre de discussion pourrait avoir, je serais bien incapable de vous le dire.
La raison pourquoi le gouvernement là, permet ceci, c'est pour combler le manque de main-d'œuvre. Il y a environ 1650 employés en congé sans solde parce qu'ils ne sont pas complètement vaccinés. Alors, serait-il mieux de faire travailler une personne non vaccinée qu'une personne vaccinée, mais qui présente des symptômes?
Ah oui, alors ça, c'est pas une question très simple que vous me posez là, parce que effectivement, c'est un vrai problème, et je connais plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont préféré quitter leur emploi ou qui n'ont pas été reconduites dans leurs fonctions et n'étant pas vaccinées. Donc c'est vrai que la réticence à se faire vacciner peut pousser plusieurs personnes à aller aussi loin que éventuellement perdre sa job. Donc alors maintenant. Quant à savoir si les entreprises sont légitimes ou pas, ou est-ce qu'il faudrait finalement rappeler ces gens-là, c'est une question plutôt de société. Je ne sais pas s'il y a une réponse acceptable qui s'imposerait naturellement à tout le monde. Je pense que dans cette question-là, ce qu'il faut aussi avoir en compte, c'est la consistance des messages envoyés. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un message qui devient vrai au mois de février, faux au mois de mars, à moitié vrai au mois d'avril. Donc, si on prend une décision telle que de se dire bah, « Maintenant, les gens, on vous laisse le choix d'être vaccinés ou pas, puis si vous n'êtes pas vaccinés, bah, malheureusement, on ne vous autorisera plus à travailler au contact du public », je pense que le mieux, c'est quand même de se tenir à cela. Quand on ramène ce chiffre-là à la masse salariale en Alberta, ça reste quand même un chiffre extrêmement faible de gens qui ne sont pas vaccinés et qui auraient perdu leur emploi tout de même. Donc il faut relativiser ce chiffre-là. Moi, je pense que la consistance et la constance dans les décisions publiques aident aussi à leur crédibilité parce que tous ceux qui font des efforts peuvent se dire « Ah ben non, mais la semaine prochaine, ils vont peut-être changer, ça va peut-être être autre chose ». Et puis, dans le contexte qui est celui de la vague de Omicron, je pense qu'on ne peut pas trop faire l'économie de moyens de lutte contre la pandémie, et la vaccination en fait évidemment partie.
On va passer maintenant du dossier là, des employeurs qui auront droit à rappeler des employés au travail à celui de la taxe, comme au Québec, sur les personnes non vaccinées. Le Québec a justement annoncé une taxe aux personnes non vaccinées de 18 ans et plus en milieu de semaine. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mercredi, donc hier, qu'il n'élimine pas la possibilité d'imposer cette taxe au niveau national. Est-ce que vous croyez que cette taxe soit la meilleure des solutions pour inciter les gens à aller se faire vacciner?
La meilleure des solutions, ce serait que les gens se fassent vacciner sans qu'il y ait besoin de mettre en place des taxes et des contraintes et quoi que ce soit. Maintenant, il faut regarder les choses en face. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette pandémie, 1 an que le vaccin est disponible. Et parmi les gens qui ne sont pas vaccinés, les gens peuvent être vaccinés, non vaccinés, pardon, pour différentes raisons. Mais il y a une frange des gens qui ne se vaccinera jamais, quelle que soit l'éducation, quelles que soient les informations. Il y a un moment où, au bout d'un an, là, quand on a mis à disposition l'information, quand on a des campagnes d'éducation, quand on a fait des séances de vaccination à divers endroits de manière facilitée, en Alberta, dans les pharmacies, c'est relativement simple de se faire vacciner, bah, il y a des gens qui, malgré cela, resteront non vaccinés. Alors, il faut séparer bien ça des gens qui ne se font pas vacciner parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'information dans leur langue maternelle, parce qu'ils sont éloignés des services de santé. Ce n'est pas la même population. Moi, ma compréhension de la situation, c'était que vraiment le Premier ministre Legault ciblait davantage les gens qui refusaient de se faire vacciner, c'est-à-dire les gens qui avaient de l'information, à qui on a tout bien expliqué et qui, en connaissance de cause, font le choix de ne pas se vacciner. Donc là, déjà, ça cible un peu la population concernée par cette décision-là. Maintenant, dans le contexte actuel, c'est vrai que vous m'auriez dit ça il y a 2 ou 3 mois, j'aurais certainement sauté au plafond en disant « certainement pas, je suis complètement défavorable à ce genre de mesures ». Maintenant, je le vois aussi sous l'angle du risque professionnel pour les soignants. Chaque personne qui ne se fait pas vacciner, c'est aussi des risques de diffusion supplémentaires quand ces gens-là viennent recevoir des soins à l'hôpital, parce qu'il faut continuer à recevoir des soins dans tous les cas. Donc, ça fait aussi un risque pour les soignants qui vont avoir des infections répétées. Et la répétition des infections peut conduire à des risques accrus pour eux de problèmes de santé graves, sans compter les problèmes liés à la Covid longue. Bref, même si ce n'est pas quelque chose qui me ravit énormément, on peut se dire aussi que ce genre d'annonce peut avoir l'effet d'accélérer les demandes de vaccination. Je crois qu'il y a eu une augmentation des demandes de vaccins au moment où on a mis en place les passes sanitaires et équivalents. Les gens se sont dit « tiens, ben on va nous supprimer de l'accès à des services ou à des options ou à du divertissement, je vais aller me faire vacciner ». Peut-être que l'effet d'annonce de ce genre de décision peut aussi faciliter la bascule chez des gens qui sont toujours un peu hésitants ou qui refusent catégoriquement et les inviter peut-être plus à considérer la vaccination. On n'est pas dans quelque chose d'idéal, clairement. Ce n'est pas quelque chose qui me rend très enthousiaste. Mais maintenant, voyant les chiffres, voyant la situation dans les hôpitaux, voyant la catastrophe en termes de nombre de cas que nous avons, je pense que ce n'est pas non plus correct de se dire hey, « je ne peux être pas vacciné, je peux faire ce que je veux et j'aurai toujours le même service sans aucune problématique ». Je pense qu'il y a aussi quelque chose à se dire de ce point de vue-là. Il y a une attitude consumériste qui pose un peu problème alors que les soignants sont sur le plancher, là, à batailler depuis des mois, sont épuisés, on les rappelle sur leur congé. S'il n'y a pas un effort qui est fait de la part des gens, ou alors si on continue à se dire « c'est correct, je peux faire ce que je veux, il ne m'arrivera rien », je pense que c'est aussi un problème.
Monsieur Quentin Durand-Moreau, est-ce que vous croyez que lorsque… Pour vous refaire un petit souvenir, là, en automne, quand le Québec avait adopté le passeport vaccinal, le code QR, l'Alberta a dit que jamais elle n'imposerait cela à la province. Ensuite, le gouvernement fédéral l'a rendu obligatoire et l'Alberta a dû se plier là, à ce programme de passeport-là. Est-ce que vous croyez que ça pourrait arriver avec cette taxe-là? Est-ce que vous croyez que si le fédéral l'impose, l'Alberta n'aura pas le choix de l'imposer elle aussi?
Alors là, c'est pareil, une question plutôt politique. Moi, je pense qu'un analyste politique pourrait vous donner peut-être une prédiction plus fine de la décision qui sera prise par le Premier ministre Kenney. Moi, mon impression, c'est que le volontarisme politique dans le contexte actuel ne sert pas à grand-chose. C'est le virus qui décide. Quand on s'en sera à rediscuter l'intervention de l'armée, le redéploiement de soignants, pas aux qualifications dans des services parce qu'il n'y a plus personne pour prodiguer des soins, quand on en est à des extrémités qui sont la dispensation de soins suboptimaux, je pense qu'il faut regarder toutes les options qui s'offrent à nous pour faire baisser la pandémie. Parce que là, il y a un moment où c'est malheureusement le virus qui décide quand on lui laisse prendre de la place. Et c'est encore une fois une combinaison de facteurs hein, qui doit être prise en compte. Donc il y a cette question-là de la taxe qui est posée, qui s'applique à l'échelon individuel. Il y a la question de la vaccination dont on a parlé. Il y a aussi d'autres questions dont on parle peut-être moins, c'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la ventilation ? Parce que c'est un virus qui se diffuse quasi exclusivement par voie respiratoire. On parle un peu des masques, on voit qu'il y a de la difficulté à avoir des masques, qui soient des N95, mais il y a aussi la question de la ventilation des bâtiments. Il y a un moment où il va falloir se poser la question d'un plan fédéral ou provincial remise aux normes et de contrôle de l'effectivité de la ventilation. Ça ne peut pas être juste déclaratif, ça ne peut pas être juste dire on va ouvrir vaguement les fenêtres. Mm-hmm. Non, il va falloir sérieusement qu'on se penche là-dessus en complément de tout le reste. Parce qu'il ne faudrait pas donner non plus l'impression que les seules mesures sur lesquelles on est actif et où on met le paquet, c'est juste la vaccination individuelle et puis mettre des taxes aux gens. Il y a aussi des efforts institutionnels à faire dans cette affaire-là, il ne faudrait pas l'oublier.
C'était le docteur Quentin Durand-Moreau. Il nous a parlé des employeurs qui auront le pouvoir de décider si leur service est essentiel et d'une taxation envers les personnes non vaccinées. Merci beaucoup, Monsieur Quentin Durand-Moreau, pour avoir pris du temps pour cette entrevue. C'est vraiment apprécié.
Merci beaucoup.